Eh bien, bonsoir à tous et merci de vous être de venir participer à la conférence Carte blanche d'Arnaud Tourin. Alors, je vous dis, j'ai la chance de le connaître depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Arnaud est donc, il est actuellement professeur de physique à l'école de physique et chimie industrielle de Paris. Il a été directeur adjoint de 2009 à 2014 de l'Institut Langevin et qu'il a dirigé de 2014 à 2022. Et de 2022 à 2024, récemment, il a été vice-président recherche, sciences et société de l'université PSL. Peut-être qu'il nous en dira un mot. Voilà. En tout cas, il est également l'auteur d'un livre dont il parlera peut-être, « Les nouveaux entrepreneurs du public », qu'il a publié avec Madame Daphné Raffini aux Presses des Mines. Et aujourd'hui, il nous parle de « Ondes, renversement du temps et innovation ». Merci Arnaud.
Merci beaucoup Jean. Bah, permettez-moi tout d'abord... Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement Jean Douze qui a suggéré mon nom et merci aux organisateurs de cette série de conférences de m'avoir invité et de me donner ainsi l'opportunité de vous parler effectivement d'ondes, de renversement du temps et d'innovation. Mon objectif, pour le dire en quelques mots ce soir, va être de vous montrer comment des expériences de laboratoire, en l'occurrence des expériences de renversement du temps pour les ondes, ont pu conduire à des inventions utiles pour la société et des inventions trouvant un marché, autrement dit, ce qu'on appelle des innovations. Et dans ce contexte, le fil rouge pour toute cette présentation sera cette question qui a obsédé beaucoup les physiciens de la fin du 19e siècle, mais qui en obsède encore beaucoup aujourd'hui, je pense, et j'en fais partie en tout cas. Peut-on inverser le sens du temps ? Et nous verrons que c'est en abordant cette question avec un regard d'ingénieur autant que de chercheur que Matthias Finck, que vous voyez ici en photo, à la fin des années 80 et au tout début des années 90, a inventé un dispositif qui permet effectivement à une onde de revivre sa vie passée. Il s'agit de ce qu'on appelle un miroir à retournement temporel. Donc le principe d'une expérience de renversement du temps pour les ondes est illustré ici, sur cette jolie caricature, mais j'en dirai un peu plus dans un instant. Avant cela, je voudrais tout d'abord vous dire quelques mots du laboratoire dans lequel ces recherches se sont inscrites. Donc c'est un laboratoire, l'Institut Langevin, qui dépend de l'ESPCI Paris PSL d'une part et du CNRS d'autre part, et qui a également deux tutelles dites secondaires dans le jargon consacré, Sorbonne Université et l'Université Paris Cité. Donc effectivement, j'ai dirigé ce laboratoire jusqu'à une date récente, en 2022, et Yannick De Wille, que vous voyez ici en photo, m'a succédé. Alors ce laboratoire est relativement récent, somme toute, en tout cas à l'échelle de l'histoire de l'ESPCI, puisque c'est un laboratoire qui est né le 1er janvier 2009 du rapprochement de deux laboratoires de l'ESPCI Paris PSL, à savoir ici à gauche le laboratoire ondes et acoustique, et ici à droite le laboratoire d'optique physique. Le laboratoire ondes et acoustiques avait été créé donc par Matthias Finck, dont j'ai déjà dit un mot il y a un instant, au début des années 1990, au moment où il testait ses premiers miroirs à retournement temporel. Donc ce fut le début de l'aventure à laquelle j'ai moi-même participé à partir du milieu des années 90. Et à l'époque, c'est Pierre-Gilles Degène, directeur de l'ESPCI Paris, qui l'avait invité à créer son laboratoire à l'ESPCI. Et puis ici à gauche, vous voyez Claude Bocara, autre éminent chercheur qui, lui, dirigeait à l'époque donc, le laboratoire d'optique physique et qui est notamment connu pour avoir inventé l'imagerie acousto-optique, des milieux biologiques ou encore la tomographie optique cohérente plein champ. Et donc, ce laboratoire est né à l'initiative de ces deux grands personnages de la physique et ce laboratoire est né de l'idée qu'il était pertinent de rapprocher des chercheurs intéressés par tous les types d'ondes possibles. Et vous verrez qu'on tient là une caractéristique essentielle du laboratoire qui a fait que nous avons eu beaucoup de succès, notamment en matière d'innovation, et j'y reviendrai un peu plus en détail par la suite. Alors c'est assez naturellement que nous avons choisi de baptiser notre laboratoire du nom de Langevin. Alors vous connaissez, je pense, toutes et tous Langevin. Sachez qu'il a notamment été directeur de l'ESPCI Paris pendant plus de 20 ans, donc jusqu'à sa mort en 1946. Et avant, il en avait même été le directeur des études pendant également une vingtaine d'années. Et il était aussi l'un de ses anciens élèves, un élève de la 7e promotion de l'ESPCI, école qui a été créée en 1882. Mais évidemment, au-delà du rôle institutionnel éminent qu'il a joué, il était aussi et avant tout le grand physicien que vous connaissez. Il est notamment connu pour l'équation éponyme dans le contexte du mouvement brownien. C'est peut-être moins connu, mais il est aussi celui qui a apporté la première démonstration de la loi de Curie dans le contexte du magnétisme. Pierre Curie, autre grand nom de l'ESPCI Paris. Et puis, il a également contribué à populariser les idées d'Einstein sur la relativité. Il a d'ailleurs donné les premiers cours de relativité au Collège de France. Et vous savez peut-être aussi qu'il est à l'origine du paradoxe des jumeaux, qui illustre le fait qu'on vieillit plus ou moins vite en fonction de l'observateur. Alors au-delà donc de ce rôle éminent également joué dans le contexte de la physique et de son développement au cours du XXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, Langevin était également un inventeur. Alors vous avez ici un brevet d'invention qui a été déposé par Langevin et Chilovski, un ingénieur d'origine russe, en 1916, dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Et ce brevet décrit ce qu'est un sonar. Alors le terme même de sonar a été forgé bien plus tard, dans le cours de la Seconde Guerre mondiale, mais vous avez bien là la description de ce qu'est un sonar. Alors on lit parfois sur Wikipédia en particulier que cette invention aurait été rendue possible par la découverte quelques 36 ans plus tôt par les frères Pierre et Jacques Curie de la piézoélectricité. Ce n'est pas tout à fait vrai. Quand on prend la peine de lire ce brevet, on se rend compte qu'il n'y est pas question de piézoélectricité en réalité. C'est-à-dire que l'émetteur donc, qui va permettre d'émettre des ultrasons en milieu sous-marin qui avait été conçu, imaginé à l'époque par Paul Langevin, était en fait un condensateur, baptisé un condensateur chantant, et son récepteur était un microphone à grenaille. Mais très vite, en 1917, donc un an après le dépôt du brevet, Langevin décide d'exploiter effectivement l'effet piézoélectrique pour améliorer la sensibilité de son récepteur. Et un an plus tard, il conçoit finalement un émetteur-récepteur donc fondé sur l'effet piézoélectrique, le sondeur de Florisson-Langevin, que vous voyez ici en photo. Et c'est en fait, vous le voyez, une collection de céramique piézoélectrique, une mosaïque de quartz piézoélectrique qui effectivement présente cet effet piézoélectrique. Alors en quelques mots, qu'est-ce que l'effet piézoélectrique? Beaucoup d'entre vous, je pense, savent de quoi il s'agit. L'idée est que si vous prenez ici un petit morceau de quartz et que vous le faites osciller, que vous le déformez mécaniquement, eh bien vous pouvez mesurer une tension électrique. Le morceau de quartz se polarise. Réciproquement, c'est l'effet piézoélectrique inverse. Si vous imposez une différence de potentiel à un petit cristal de quartz, celui-ci va se mettre à osciller. Autrement dit, un morceau de quartz peut tout à la fois jouer le rôle de haut-parleur et de microphone. Il peut à la fois émettre des ondes et recevoir des ondes. Nous le verrons, des ondes ultrasonores dans la gamme du mégahertz, s'agissant des expériences que je vais vous montrer. Et nous verrons en fait que ceci est à la base de ce qu'on appelle la technologie des transducteurs piézoélectriques, qui sont capables d'émettre et recevoir des ultrasons. Et c'est avec de tels transducteurs piézoélectriques qu'on peut fabriquer ces fameux miroirs à retournement temporel. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les activités de recherche que nous menons au laboratoire, mais je voudrais toutefois vous en faire sentir l'esprit avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler du renversement du temps. Alors vous l'avez compris, la première caractéristique importante du laboratoire est que nous sommes des marieurs d'ondes. Nous émettons toutes les ondes, nous les marions dans un même laboratoire, et vous voyez que nous nous intéressons aussi bien aux ondes mécaniques, et notamment aux ondes acoustiques, et en particulier dans la gamme des ultrasons, qu'à la lumière, et donc aux ondes optiques de façon plus générale, mais en passant par les ondes radiofréquences et tout particulièrement les micro-ondes. Alors il y a plusieurs avantages à cela, à avoir mélangé toutes les ondes dans un même laboratoire. Le premier d'entre eux, c'est que lorsque vous avez une nouvelle idée pour apprivoiser les ondes, en général, il est plus facile de la tester pour certains types d'ondes que pour d'autres types d'ondes. Donc vous cherchez, vous utilisez donc le type d'onde pour lequel il est facile de mettre au point l'expérience, et si l'idée s'avère fructueuse, vous pouvez éventuellement, le cas échéant, chercher à la transposer dans d'autres gammes de fréquences, voire pour d'autres types d'ondes. Le deuxième avantage, c'est que lorsque vous avez toutes ces expertises, vous pouvez imaginer de nouveaux dispositifs d'imagerie mélangeant deux ondes dans un même milieu, C'est l'exemple de l'imagerie à cousteau-optique que j'ai déjà cité et auquel Claude Bocara a beaucoup contribué. L'idée étant que l'une de ces deux ondes va vous apporter le contraste de l'image et l'autre sa résolution. C'est le concept d'imagerie multi-onde qui a été théorisé par Matthias Finck en 2010. Il a écrit un papier à ce sujet. Alors, deuxième caractéristique importante, nous sommes avant tout des physiciens à l'Institut Langevin. Et à ce titre, nous sommes avant tout mus par le désir de faire reculer les frontières de la connaissance. Nous souhaitons percer les mystères de la propagation des ondes, notamment lorsque celles-ci se propagent dans des milieux extrêmement complexes. Pensez à des milieux hétérogènes désordonnés, à des milieux réverbérants. Mais lorsque de ces expériences ou de ces travaux très fondamentaux naissent de nouvelles idées, eh bien nous nous efforçons de les appliquer à des domaines très variés qui, comme vous le voyez ici à droite de la diapositive, vont de l'imagerie médicale aux communications sans fil, en passant par l'intelligence artificielle ou encore le contrôle non destructif. Et il ne vous aura pas échappé que la flèche va dans les deux sens. C'est dire qu'on profite ensuite des outils qu'on a contribué à développer en vue d'application pour s'attaquer à de nouveaux sujets de physique fondamentale et en bénéficiant pour cela d'outils uniques au monde puisque nous venons à peine de les mettre sur le marché. Et puis, dans certains cas, nous allons jusqu'à déposer des brevets, créer des entreprises. Donc vous avez ici la liste des 5 entreprises qui sont nées avant même la création de l'Institut Langevin, c'est-à-dire qui sont nées des recherches qui avaient été précédemment menées au sein du laboratoire ondes et acoustiques et au sein du laboratoire d'optique physique de l'ESPCI. Donc je dirais un mot de 3 d'entre elles, Sensitive Object, Supersonic Imaging et Time Reversal Communications. Je vous dis simplement un mot de la première qui a été créée historiquement, Ecosens. Vous voyez que c'est une société qui a été créée en 2001. 2001, c'est 2 ans après la loi Allègre, la loi sur l'innovation, qui a été une véritable révolution, puisque c'est une loi qui permet aujourd'hui à des chercheurs sous statut public de participer à la création d'entreprises valorisant leurs propres travaux. C'était impossible avant 1999. Sachez qu'avant cette date, un chercheur qui participait à la création d'une entreprise pour valoriser ses propres travaux était en fait coupable de prise illégale d'intérêt. Donc il était temps effectivement qu'une telle loi soit promulguée et on peut rendre grâce à Claude Allègre de ce point de vue-là, je pense. Alors vous voyez que Ecosens, donc créé en 2001, 2 ans après la loi Allègre, commercialise un appareil que vous voyez ici, enfin ça c'était la première version de l'appareil commercialisé à l'époque, qui s'appelle le FibroScan et qui permet de mesurer le degré de fibrose hépatique. Autrement dit, c'est un appareil qui évite toute biopsie et c'est aujourd'hui devenu un appareil qui est en fait le gold standard dans le domaine des maladies du foie, des maladies hépatiques. Alors depuis, nous avons fait mieux. Nous avons fait mieux dans le contexte en particulier du LabEx Wi-Fi. Vous avez peut-être entendu parler des LabEx, des EquipEx, des IDEX. Ce sont des instruments qui ont été créés au moment du lancement du premier programme des investissements d'avenir en 2010, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et à l'époque, Valérie Pécresse était sa ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, à l'époque, le programme des investissements d'avenir est lancé, et l'idée est notamment d'inciter les chercheurs à se regrouper autour d'une thématique donnée, présentant un fort potentiel de valorisation, avec l'idée que pourront du coup découler de ces nouveaux instruments, de ces nouvelles structures, de l'innovation, des brevets et des start-up. Et donc vous avez, dans ce contexte, nous avions mis au cœur du projet l'idée de professionnaliser et d'accélérer le transfert technologique. Nous avions déjà, vous l'avez compris, une certaine expertise en la matière, mais il fallait nous professionnaliser et c'est dans ce contexte que nous avons recruté une juriste éminente en la personne de Daphné Raffini, qui a été citée déjà par Jean Andouze dans son introduction. Et Daphné a eu carte blanche, en l'occurrence, pour créer au laboratoire une innovation organisationnelle et doublée d'une innovation de service au service de l'innovation qu'elle a intitulée Pôle Innovation. Et ce Pôle Innovation a développé une véritable stratégie d'innovation permettant aux chercheurs, depuis l'idée qui germe dans leur cerveau jusqu'à la création d'entreprise, d'être accompagnés tout au long du processus, en passant par les étapes de dépôt de brevets, de recherche d'un dirigeant de la future entreprise et de financement. Et c'est dans ce contexte que, vous le voyez, 9 nouvelles sociétés ont été créées. Là encore, je ne rentrerai pas dans les moindres détails, mais bien évidemment, si vous avez quelques questions à la fin de mon exposé, j'y reviendrai avec grand plaisir. Alors, je vais maintenant entrer dans le vif du sujet. Mon exposé, vous le voyez, sera divisé en 2 parties. Je vais d'abord vous parler d'ondes et de renversement du temps, et je reviendrai brièvement sur le paradoxe de Loschmidt, ce paradoxe qui a beaucoup obsédé Loschmidt et son collègue Boltzmann. Un débat les a opposés à la fin du XIXe siècle sur l'origine de l'irréversibilité à l'échelle macroscopique. Nous savons bien que nous sommes toutes et tous condamnés à vieillir. Nous vivons dans un monde macroscopique intrinsèquement irréversible, alors même que les équations, donc à l'échelle microscopique, l'équation Newton, l'équation d'onde, sont invariantes par renversement du temps. Donc je vais revenir brièvement sur ce paradoxe avant de vous montrer comment il est possible de faire revivre à une onde sa vie passée en utilisant l'une de ces deux méthodes, le retournement temporel instantané ou bien les miroirs à retournement temporel. Et je vous présenterai en particulier une expérience déjà ancienne, mais à laquelle j'ai participé au milieu des années 90, une expérience de retournement temporel dans l'équivalent d'un gaz de Lorentz, nous le verrons pour une particule, autrement dit un milieu qui pour des particules est intrinsèquement très chaotique. Et nous verrons que cette expérience purement académique a donné des idées, ensuite nous a donné des idées d'applications possibles dans le domaine des télécommunications, télécommunications sans fil. Et puis ensuite, je parlerai plus brièvement de trois autres applications possibles du renversement du temps des ondes. Tout d'abord pour l'imagerie de sources sismiques, ensuite dans le contexte de l'imagerie médicale, et enfin pour rendre n'importe quel objet ou interface tactile. Alors, ondes et renversement du temps. Pour illustrer le paradoxe de Loschmidt, je commence par vous présenter un premier film où vous voyez des particules d'encre converger vers une même position pour créer une goutte d'encre. Je pense que votre intuition ne vous a pas trompé. Évidemment, je me suis en fait contenté de passer un film à l'envers. Et le bon film, c'est celui-ci. Je le passe maintenant. Vous voyez une goutte d'encre qui est jetée dans l'eau. Les particules qui composent la goutte d'encre se mettent à diffuser dans l'eau. Et si on attendait suffisamment longtemps, on verrait le verre d'eau prendre une teinte uniforme, uniformément noire ici. C'est là qu'apparaît le paradoxe de Loschmidt, puisque à l'échelle de chacune des particules qui composent la goutte d'encre, l'évolution est gouvernée par l'équation de Newton, et l'équation de Newton est invariante par renversement du temps. Donc, comment donc expliquer l'émergence de l'irréversibilité à l'échelle macroscopique à partir d'équations microscopiques qui sont, elles, réversibles ? C'est le paradoxe soulevé par Loschmidt donc à la fin du XIXe siècle. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous savez sans doute qu'une partie de la réponse, au moins, a été apportée par la thermodynamique. Thermodynamique, science née des travaux fondateurs de Sadi Carnot, ingénieur de l'École Polytechnique. Et nous avons là un premier bel exemple des apports des sciences de l'ingénieur à la physique la plus fondamentale, puisque tout est parti d'une préoccupation très pratique. Dans le contexte de la première révolution industrielle, Carnot s'intéressait au rendement des machines à vapeur, au rendement limite des machines à vapeur. Et donc il a écrit ce magnifique ouvrage, Réflexion sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance. Et donc pour calculer ce rendement des machines à vapeur, il est parti du constat qu'il existe dans la nature des processus intrinsèquement irréversibles, au rang desquels la transformation d'un travail en chaleur ou encore le transfert d'une source chaude à une source froide. On sait bien qu'il s'agit là effectivement de transformations irréversibles. Alors pour autant, Carnot n'a pas introduit en tant que tel le second principe et la notion d'entropie. Il a fallu attendre quelques dizaines d'années plus tard pour cela, et c'est Clausius, un chercheur allemand, qui effectivement a défini l'entropie, qui est donc une grandeur physique, ce qu'on appelle une fonction d'état, qui, pour toute transformation se passant dans l'univers, conduit à une augmentation de l'entropie de cet univers. Et donc vous voyez ici, je mettrai très peu d'équations, je vous rassure, mais vous voyez que j'ai décomposé ici la variation de l'entropie de l'univers comme la somme de deux termes. Le premier est la variation de l'entropie du système considéré, qui subit une transformation, et le second terme est la variation de l'entropie de l'extérieur, de l'environnement dans lequel le système est plongé. On peut montrer que la variation donc, de l'entropie de l'extérieur est donnée par moins Q sur T, T étant la température à l'interface entre le système considéré et l'environnement, Q étant la quantité de chaleur reçue par le système. On en déduit donc immédiatement que la variation d'entropie du système est toujours supérieure ou égale à Q sur T, où, encore une fois, Q est la quantité de chaleur reçue par le système. Alors, reprenons l'exemple de la source chaude et de la source froide. Par exemple, si je mélange un litre d'eau froide et un litre d'eau chaude, j'obtiens 2 litres d'eau tiède. Et on sait bien qu'il n'est pas possible de démélanger 2 litres d'eau tiède pour recréer un litre d'eau chaude et un litre d'eau froide. Et donc, si on calcule la variation d'entropie dans ce cas particulier, effectivement, on voit que l'entropie gagnée par l'eau froide est plus grande que l'entropie perdue par l'eau chaude, puisque T1 est plus petit que T2, et on a bien donc une variation d'entropie qui est ici strictement positive. Autrement dit, l'entropie fixe bien une flèche du temps. L'entropie permet de décrire le fait que un certain nombre de transformations dans la nature sont irréversibles. Pour autant, Loschmidt n'était pas tout à fait satisfait de ce type d'argument, et beaucoup d'autres physiciens, effectivement, n'étaient pas convaincus, dans la mesure où, vous l'avez compris, c'est une définition qui n'est pas dénuée d'éléments anthropomorphiques. C'est une définition qui vient directement d'une situation pratique qui avait été, donc, à l'époque, comme je viens de le rappeler, étudiée par Carnot. Et donc, c'est Boltzmann le premier qui a commencé à s'intéresser aux raisons ou aux causes microscopiques de cette notion d'entropie. Et pour cela, il s'est intéressé à des phénomènes de diffusion classiques que j'illustre ici. Vous voyez ici des particules qui s'écartent d'une position initiale avec une certaine vitesse. Pensez par exemple, pour fixer les idées, à la goutte d'encre de tout à l'heure, mais on peut penser aussi à des molécules de gaz qu'on injecte ici dans une enceinte et qui s'écartent les unes des autres avec une certaine vitesse, si bien que ultérieurement, les particules de gaz vont se répartir de façon relativement uniforme dans l'enceinte. Et donc Boltzmann se dit que la complexité joue forcément un rôle dans le cas d'un système composé d'un très grand nombre de particules. Et cela le conduit à poser une hypothèse importante, l'hypothèse du chaos moléculaire, qui vous dit que si deux particules ici, deux molécules de gaz s'apprêtent à entrer en collision, elles sont statistiquement indépendantes. Alors une autre façon de dire les choses un peu plus avec les mains, c'est que deux particules qui s'apprêtent à entrer en collision, au fond, ont totalement perdu la mémoire de ce qui leur est arrivé précédemment, de leur trajectoire passée. Et sur la base de cette hypothèse, Boltzmann aboutit au théorème H. En fait, la fonction H est l'inverse de l'entropie. Et il montre qu'effectivement, H ne peut que décroître, de la même façon que l'entropie ne peut que croître, comme je l'ai rappelé. Et puis, cette hypothèse le conduit également à définir ou à démontrer l'équation de Boltzmann, qui décrit la façon dont la distribution de probabilité des particules et des vitesses évolue au cours du temps. Et l'équation de la diffusion, dont j'ai dit un mot précédemment, qui décrit l'évolution de systèmes diffusifs, peut être vue comme un cas limite de l'équation de Boltzmann. Mais pour autant, Loschmidt n'était toujours pas convaincu par ce type d'argument, puisque Loschmidt finalement se disait, mais pour chacune de ces particules, il existe une trajectoire qui les ramène à la position initiale, ce qui permet de recréer un état d'entropie plus basse. Alors, dans un premier temps, Boltzmann a été assez ébranlé par cet argument et, dans un premier élan, il a répondu « mais tu n'as qu'à les inverser toi-même, les vélocités, les vitesses ». Il voulait par là même signifier à son collègue l'impossibilité pratique de réaliser une telle expérience. Pour autant, cela a conduit Boltzmann à continuer à réfléchir, à affiner sa théorie et cela l'a conduit à définir l'entropie d'un point de vue statistique. Et si vous avez l'occasion de vous promener à Vienne et dans le cimetière central de Vienne, vous pourrez voir cette fameuse formule S égale K log de W, bien connue des physiciens. Je sais qu'il y en a dans cette salle. K, vous reconnaissez la constante de Boltzmann, et W est le nombre de configurations microscopiques accessibles pour un état macroscopique donné du gaz, par exemple, défini par sa température et sa pression. Au fond, ce que cette formule vous dit, simplement, c'est que la nature a une propension naturelle pour les états les plus probables. Et effectivement, on comprend bien que lorsque vous avez une configuration de ce type, une parmi beaucoup d'autres, chacune d'elles étant définie par une position particulière de chacune des particules et une vitesse pour chacune d'entre elles, on comprend bien que dans cette situation-là, il existe beaucoup plus d'états microscopiques accessibles que dans la situation où on oblige les molécules à être confinées dans une petite région de l'espace. Donc l'argument semble convaincant, il n'a pas tout à fait convaincu Loschmidt, et si on reprend l'injonction de Boltzmann, tu n'as qu'à toi-même les inverser, les vitesses, eh bien pourquoi pas, imaginons au moins par la pensée une expérience dans laquelle des capteurs magiques, qu'on a coutume maintenant d'appeler des démons de Loschmidt, permettrait de mesurer la position et la vitesse de chacune des particules à un instant T1, puis à un instant ultérieur T2, l'idée serait de préparer de nouvelles conditions initiales, l'idée étant de conserver la même position pour chacune des particules, mais d'inverser leur vitesse. Auquel cas, on devrait effectivement voir chaque particule revivre les étapes antérieures de sa vie pour finalement recréer le film à l'envers et recréer ou remettre à la position initiale chacune des particules. Donc c'est une expérience de renversement du temps. À l'époque, à la fin du XIXe siècle, tous les arguments n'étaient pas encore là pour comprendre pourquoi une telle expérience était impossible. Et la première remarque que je souhaite faire brièvement, c'est que, au fond, le principe d'entropie, même dans une telle expérience, n'est pas mis en défaut. En effet, comme on l'a compris avec la théorie de l'information, qui est due à Shannon, puis ensuite aux travaux de Brillouin, qui a fait le lien entre l'entropie du point de vue de la physique et l'entropie du point de vue de l'information, en réalité, quand je mesure la position et la vitesse de chacune de ces particules, j'utilise des capteurs qui consomment de l'énergie et qui communiquent au milieu environnant de la chaleur. Et il y a un lien très étroit entre l'entropie et l'information. Au fond, l'entropie mesure le degré d'incertitude que j'ai sur mon système. Si je mesure la position et la vitesse, je limite cette incertitude, je gagne de l'information et donc je diminue l'entropie. Il est donc naturel que je sois capable de recréer un état d'entropie plus basse. Mais si je raisonne à l'échelle du laboratoire, c'est-à-dire les capteurs plus le système considéré, l'entropie ne peut effectivement que croître. Et puis, de toutes les façons, pour des particules, une telle expérience serait impossible. Et ça, on l'a compris plus tard. On l'a compris avec l'émergence de la théorie du chaos, qui est liée notamment aux travaux pionniers au début du XXe siècle de Poincaré, puis aux travaux de Kolmogorov et d'autres encore. Et vous connaissez sans doute cette métaphore du papillon qui bat de l'aile au-dessus du Brésil et qui crée une tornade au-dessus du Texas. En fait, cette métaphore vient tout simplement du titre qu'avait donné un physicien et météorologue américain, Lorenz, à un de ses exposés en 1972. Et donc ici, si on transpose la théorie du chaos à la situation présente, elle vous dit que si vous commettez une petite erreur, si infime soit-elle, quand vous définissez la vitesse inverse de chacune des particules, cette erreur va croître exponentiellement avec le temps, elle va exploser, si bien que vous ne parviendrez jamais à reconstituer l'état initial. Alors fort heureusement, ce qui est impossible avec des particules est possible avec des ondes, et dans le cas contraire, je ne serai pas ici devant vous pour vous en parler. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura très très peu d'équations, mais j'en ai quand même mis une pour les physiciennes et les physiciens qui sont parmi nous. Vous reconnaissez ici l'équation d'onde, l'équation de D'Alembert, donc dans une formulation très simple. Psi, ici, pour fixer les idées, est typiquement le champ de pression associé à la propagation d'une onde acoustique. Ce champ de pression dépend de la position de l'espace et du temps. Et ici, C est la célérité de l'onde. Donc 1500 mètres par seconde pour une onde acoustique se propageant dans l'eau, 330 mètres par seconde pour une onde acoustique se propageant dans l'air. Et vous voyez que si psi de t est solution de cette équation, psi de moins t est également solution de cette équation en raison de cette dérivée temporelle d'ordre 2. C'est dire qu'effectivement, cette équation est invariante par renversement du temps. Très concrètement, cela signifie que si psi de t représente une onde qui diverge ici depuis une source, une onde qui éventuellement se traverse des hétérogénéités où elle s'abîme, eh bien psi de moins t représente l'onde anticausale, l'onde duale, qui vit à rebours les étapes de sa vie et qui vient converger sur la position initiale. Donc en général, quand on enseigne la physique des ondes à l'université, on demande à ses étudiants de jeter cette onde à la poubelle puisque précisément elle est anticausale. Ce que je vais vous montrer en fait, c'est que rien n'empêche de définir cette onde mais dans le futur. Autrement dit, ce n'est pas tout à fait la machine à remonter le temps, au risque de décevoir ceux qui étaient venus m'écouter en espérant qu'elle avait enfin été inventée. L'idée est la suivante. Au fond, si on est capable d'enregistrer les propriétés du champ en tous les points, voire au moins sur une surface fermée, voire même une surface de taille réduite, pendant un certain temps T, alors il doit être possible de créer l'onde retournée temporellement, psi de grand T moins T, où grand T est typiquement la durée pendant laquelle j'ai enregistré l'onde dans la phase allée. Et nous allons voir que pour cela, il existe deux approches possibles. Une première approche, le retournement temporel instantané, qui au fond est une transposition de l'expérience de pensée de Loschmidt. Et puis une deuxième approche, les miroirs à retournement temporel, qui nous le verrons, a conduit à de nombreuses applications. Alors je commence par cette première approche, car elle est la plus conforme à l'expérience de pensée de Loschmidt. Quand bien même, vous le voyez, elle est relativement récente. Donc c'est une expérience qui a été réalisée par Vincent Bacot pendant sa thèse au laboratoire, thèse qui était donc dirigée par Emmanuel Faure et Mathias Fink. Et donc l'expérience est la suivante. Vous voyez ici une petite cuve remplie d'eau. Et donc on peut créer une onde dans l'eau au moyen ici d'un petit stylet qui est mu par un pot vibrant. Et donc vous voyez ici la variation de la position verticale du stylet en fonction du temps. C'est la courbe bleue qui est ici. Donc le stylet pénètre dans l'eau, puis en sort très brutalement, ce qui va permettre de créer une onde à la surface de l'eau. On pourrait faire la même chose simplement en jetant une pierre dans un lac, on sait bien qu'on va créer des ondes à la surface de l'eau, des petites vagues. Et ensuite, l'idée est la suivante. Vous voyez que la petite cuve est posée sur un autre pot vibrant, de taille plus importante. Et voici la variation en rouge de la position verticale du pot vibrant. Un certain temps, donc delta T après l'instant initial, l'instant d'émission de l'onde, on va créer une petite secousse sous la cuve. Et ici, vous avez en dessous la dérivée seconde du déplacement, autrement dit l'accélération, et vous voyez que c'est une accélération gigantesque, 20 fois l'accélération de la pesanteur, et extrêmement brève. Et on va voir que ce faisant, il est possible effectivement de générer l'onde retournée temporellement. Alors voici un premier film. Vous allez voir la belle onde générée à la surface de l'eau, et vous allez voir d'un seul coup une onde qui reconverge sur son point de départ. Alors un autre film où on voit peut-être mieux les choses, donc c'est un film qui est ralenti 50 fois, vu de côté. Donc voilà une onde à nouveau qui diverge bien gentiment. Et puis vous allez voir, vous allez deviner la petite secousse qui est donnée à un certain temps. Vous voyez, on abaisse brusquement la position de la cuve et on génère de façon très naturelle l'onde renversée dans le temps qui reconverge sur la position initiale. L'idée en fait est qu'en créant cette secousse, on crée instantanément de nouvelles conditions et l'onde se scinde en deux ondes, l'une qui continue sa route et l'autre qui revient vers le point de départ. Alors on peut également réaliser ce type d'expérience avec une tour Eiffel, et vous allez voir que l'on est capable de recréer la forme de la tour Eiffel, et donc ce sont les vagues naturellement qui, en reconvergeant vers leur point de départ, recréent la tour Eiffel, et par les temps qui courent, il est bon de sourire, donc je termine avec un petit smiley, et vous allez voir qu'effectivement, très naturellement, cette simple secousse permet de recréer le smiley. Donc vous voyez que c'est vraiment l'équivalent de l'expérience à la Loschmidt, puisqu'on crée instantanément de nouvelles conditions initiales qui permettent d'obliger l'onde à revivre les étapes antérieures de sa vie et à reconverger sur sa source. Alors je vais maintenant vous parler d'un concept plus ancien, mais c'est celui-là même qui a donné lieu à de nombreuses applications. Donc c'est le concept de la cavité à retournement temporel et des miroirs à retournement temporel qui, comme je l'ai rappelé dans mon introduction, a été imaginé par Matthias Finck au tout début des années 1990. Alors je vais vous expliquer d'abord schématiquement comment se déroule une expérience de renversement du temps. Pour fixer les idées, imaginez ici que j'ai une source acoustique, ce peut être typiquement un haut-parleur, hein, si on pense à des ondes dans l'audible. Et donc vous voyez ici une onde sphérique divergente produite par le haut-parleur. Cette onde éventuellement s'abîme en traversant des hétérogénéités, vous voyez que le front d'onde est déformé. Et tout autour, on utilise des microphones, une collection de microphones. Chacun de ces microphones va transformer l'onde acoustique, le signal acoustique, en tension électrique. Et ensuite, ces signaux électriques peuvent être numérisés, et vous le voyez, stockés dans des mémoires électroniques. Et donc l'idée du renversement du temps, c'est finalement de relire chacune des mémoires à l'envers et d'utiliser les signaux dont la chronologie a été inversée pour exciter maintenant des haut-parleurs qui doivent être strictement localisés au même endroit que les microphones qui ont enregistré le signal dans l'étape d'apprentissage. Et ainsi, on recrée bien une onde retournée temporellement qui, on l'espère, reconverge sur la source qui lui a donné naissance. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas facile de disposer d'une telle cavité à retournement temporel. En général, on utilise un nombre réduit de transducteurs piézoélectriques et c'est ce qu'on appelle un miroir à retournement temporel. Alors, pour rester dans les vagues à la surface de l'eau, je vais vous montrer une première expérience très spectaculaire qui n'est pas la plus ancienne non plus et qui n'a pas été réalisée au laboratoire mais par une équipe brésilienne il y a une petite dizaine d'années. C'est une expérience avec des vagues réalisée donc dans une grande piscine. Donc, le miroir à retournement temporel est ici sur la droite. Donc, vous voyez qu'on a jeté un petit objet ici dans l'eau. Donc, on voit les rides à la surface de l'eau. Le contraste n'est pas extraordinaire, mais je pense que vous voyez bien les vaguelettes qui s'écartent donc à partir ici du point d'impact où on avait jeté donc une petite pierre. Et ici, on a un miroir à retournement temporel, c'est-à-dire une succession de petits batteurs qui sont capables, dans la première étape, d'enregistrer la variation de hauteur d'eau en fonction du temps, et dans la deuxième étape, de rejouer, on l'espère, le film à l'envers. Donc vous voyez là les vagues qui sont réémises dans l'autre direction. Donc là, on ne voit pas grand-chose, on a l'impression que ces vagues ont une allure assez chaotique, et comme le film est un peu long, c'est le moment de boire une gorgée d'eau. Donc on n'a toujours pas l'impression qu'il se passe des choses très intéressantes, mais petit à petit, vous allez voir que les vagues vont se renforcer, qu'elles vont gagner en cohérence, et que l'on va finir par voir recréer des ondes qui vont avoir la même géométrie que les ondes dans la première étape, donc des ondes qui seront normalement circulaires. Vous voyez là effectivement les vagues qui se renforcent, même si on ne voit pas encore, on n'est pas encore convaincu qu'elles vont effectivement reconverger sur le point de départ. Mais là, ça y est, vous allez voir que ces vagues se renforcent, qu'elles deviennent circulaires et finalement qu'elles vont venir reconverger au point d'impact, là où l'objet avait été lancé. Et si on a de la chance, on voit même la pierre sortir de l'eau. Alors évidemment, non, la pierre ne sort pas de l'eau, c'est une des imperfections de l'expérience. Il en est une autre, c'est que l'onde rediverge. On aurait aimé voir l'onde stoppée sur la source, mais elle rediverge. C'est une autre imperfection et je pourrais éventuellement, si vous avez des questions à ce sujet, vous expliquer comment on peut aller au-delà. Donc c'est une expérience assez spectaculaire que je voulais vous montrer avant d'en venir à une autre expérience beaucoup plus ancienne à laquelle j'ai participé au milieu des années 90 et vous allez voir comment cette expérience purement académique nous a donné des idées d'application intéressantes, notamment dans le domaine des communications sans fil. Donc l'expérience a été réalisée pour la première fois par Arnaud Derode et Mathias Fink donc, au laboratoire ondes et acoustiques à l'époque. L'idée est de plonger dans l'eau, contrairement à la couleur que vous voyez ici, il s'agit bien d'eau, une forêt de tiges, donc une forêt de tiges métalliques, de diffuseurs cylindriques, l'équivalent d'un gaz de Lorentz pour des particules. Ce milieu est plongé entre une source piézoélectrique, qui vous le voyez fonctionne à une fréquence de l'ordre de 3 MHz, pour fixer les idées, ça veut dire qu'il s'agit d'une longueur d'onde de l'ordre du demi-millimètre. Et de l'autre côté, vous avez un miroir à retournement temporel composé de 128 transducteurs piézoélectriques, ces fameux transducteurs qui permettent d'émettre et de recevoir des ultrasons. Donc voilà comment l'expérience se déroule. Vous avez donc ici la source. On demande à la source de pousser un cri ultrasonore, donc un cri qu'on n'entend pas, un cri dans l'eau. Ce cri se propage d'abord sous la forme d'une belle onde sphérique divergente. Ensuite, ce cri va pénétrer dans cette fameuse forêt de tiges. Et je vous remercie de noter que l'épaisseur du milieu ici est très grande par rapport à la distance moyenne entre deux événements de diffusion, ce qu'on appelle le libre parcours moyen élastique. Autrement dit, en moyenne, les ondes qui vont sortir du milieu vont y avoir été diffusées bien plus d'une fois. C'est ce qu'on appelle un milieu multiplement diffuseur. Et donc, vous pouvez là comprendre que les signaux que l'on va enregistrer sont bien plus longs que le signal de départ. Le signal durait ici une microseconde, les signaux durent ici typiquement 150 à 200 microsecondes. Et donc, même principe que précédemment, ces signaux sont numérisés, stockés dans des mémoires, les mémoires sont relues à l'envers, et les signaux retournés temporellement sont réémis à travers le milieu. À l'époque, il s'agissait de tester la possibilité même de refocaliser à travers un milieu aussi désordonné qu'un gaz de Lorentz, donc pour les ondes. Et donc, il n'était même pas sûr que l'onde parviendrait à refocaliser effectivement sur sa source. Et ce qu'a montré Arnaud Derode à l'époque avec Mathias, c'est qu'effectivement, il est possible de refocaliser sur la source un signal aussi bref que celui qui avait été émis. Alors, plus intéressant encore, on peut s'intéresser à l'aspect spatial. L'idée est d'utiliser toujours le même miroir, toujours les mêmes signaux, de les renvoyer toutes les millisecondes, et pendant ce temps, on déplace un petit capteur dans le plan focal. Ce capteur, c'est tout simplement la source initiale, puisque je vous rappelle, l'effet piézoélectrique est réciproque. Et pour chacune des positions, on mesure le champ de pression, ce qui permet de construire ce que vous voyez ici, la tâche de focalisation ou le diagramme de directivité qui vous donne une idée de la résolution spatiale de votre miroir à retournement temporel. On peut réaliser la même expérience dans l'eau, me direz-vous. Pourquoi mettre ce milieu épouvantable entre la source et le miroir ? Eh bien, lorsque la même expérience est réalisée dans l'eau, on obtient une tâche focale beaucoup plus large. C'est dire que non seulement cette expérience montre qu'il est possible de focaliser une onde malgré le désordre, mais plus encore, elle montre qu'en fait, on tire profit du désordre pour focaliser beaucoup mieux qu'on ne le ferait lorsqu'on réalise la même expérience dans l'eau. Et donc, c'est sur ces entrefaites que je suis arrivé au laboratoire et que j'ai démarré ma thèse en 1996, donc sous la direction d'Arnaud et de Mathias, et ils m'ont demandé de renouveler l'expérience et de comprendre pourquoi et comment on pouvait focaliser mieux qu'on ne le ferait en milieu homogène. Et donc l'explication, avec les mains en tout cas, est la suivante. Lorsque vous travaillez dans l'eau, c'est l'ouverture du miroir à retournement temporel qui va gouverner la qualité de la focalisation dans ce plan. Ceux qui font un peu de photos savent que plus l'ouverture de l'appareil photo est grande, meilleure est la résolution de votre image. Et donc les spécialistes reconnaîtront ici une fonction en sinus cardinal dont la taille caractéristique est donnée par la fameuse formule lambda F sur D, où F est la distance de focalisation et où D est l'ouverture de l'émetteur, ici, du miroir à retournement temporel. Lorsqu'on travaille non pas dans l'eau, mais à travers les tiges, on a en fait une ouverture angulaire beaucoup plus grande. Et on peut ainsi récupérer l'information venant de la source, en particulier ce rayon acoustique qui était perdu dans l'eau, est maintenant récupéré par le biais de chemins aussi compliqués soient-ils. Et donc le miroir à retournement temporel voit en quelque sorte son ouverture virtuellement agrandie. Une autre façon de voir les choses est que le milieu lui-même se comporte comme une lentille dont l'ouverture angulaire est bien plus large que celle du miroir dont je dispose. D'où l'amélioration de la focalisation. Alors je vais maintenant vous montrer comment on a pu, à partir de cette première expérience, aller vers des applications intéressantes. Avant cela, je vous montre que même si j'utilise un seul transducteur piézoélectrique pour réaliser l'opération, je suis capable de focaliser, ce qui peut paraître surprenant. En optique, si on avait ici un seul capteur et qu'on émettait une onde sinusoïdale, donc sans ouverture, autrement dit, avec une ouverture réduite à la portion congrue, il ne serait pas possible de focaliser spatialement de l'autre côté du milieu. Mais une façon de dire les choses est que l'information spatiale ou l'information angulaire sur la source est peu à peu retranscrite sur le temps, par le biais des chemins multiples subis par l'onde dans le milieu. Et donc lorsqu'on renverse le temps sur un seul transducteur, on dispose en fait de la totalité de l'information qui permet de refocaliser sur la source initiale. Alors on y perd quand même un peu. Comme vous le voyez, si on utilise 128 transducteurs au lieu d'un seul, le rapport signal à bruit est amélioré, mais vous voyez que la largeur de la tâche de focalisation est essentiellement la même. Alors renversement du temps et innovation. Comment appliquer cela dans le contexte des communications ? Car en fait, ce qu'on vient de montrer, c'est qu'on peut, à travers un milieu qui brouille la propagation des ondes, focaliser un bit d'information, un symbole élémentaire. Et il n'est pas beaucoup plus cher de focaliser un message plutôt qu'un simple bit d'information. Pour ce faire, l'idée est de réémettre le même signal, décalé dans le temps, d'une durée grand T qui peut être très petite par rapport à la durée du signal enregistré dans la première étape, grâce à cet effet de compression temporelle. Donc ça permet d'enregistrer sur mon capteur et d'envoyer à mon utilisateur un deuxième bit d'information. Si je souhaite envoyer non pas un bit 1, mais un bit 0, pour construire un vrai message, il suffit de multiplier par moins 1 le signal avant de le renvoyer, le système est linéaire, je vais ainsi créer une impulsion négative et envoyer un bit 0 à l'utilisateur. Évidemment, vous l'avez compris, c'est le codage le plus simple que je puisse imaginer, mais on peut en avoir de bien plus compliqués. Le tout est qu'on focalise le message potentiellement sur l'utilisateur auquel il est destiné. C'est ça l'intérêt. Alors avant de passer aux applications, encore fallait-il prouver qu'il était possible de réaliser le même type d'expérience avec des ondes électromagnétiques. Et c'est ce que nous avons fait dans le contexte de la thèse de Geoffroy Le Rosay au milieu des années 2000, un ancien élève de l'ESPCI, thèse qui était dirigée par Julien Deroni, Mathias Fink et moi-même. Donc vous avez ici un miroir à retournement temporel composé de 8 antennes radiofréquences fonctionnant dans la gamme du gigahertz, donc c'est la gamme de votre boîte Internet, si vous avez le Wi-Fi chez vous. Et vous avez en face un réseau d'antennes identiques. L'une de ces antennes étant considérée comme une antenne cible, autrement dit c'est l'antenne à laquelle on cherche à transmettre de l'information, et cette antenne est entourée d'autres antennes identiques, ce qui va nous permettre de mesurer à nouveau la tâche focale et donc la résolution spatiale du miroir à renversement du temps. En l'occurrence, la première expérience avait été menée dans une cavité réverbérante, car vous l'avez compris, on a tout intérêt à vivre dans un milieu complexe ou un milieu réverbérant ou présentant des hétérogénéités. Et donc voici le signal typique enregistré sur l'une des antennes du miroir à renversement du temps lorsqu'on envoie une impulsion de 10 nanosecondes de longueur. 10 nanosecondes, vous voyez ici peut-être que le signal dure plus de 700 nanosecondes. Donc à nouveau, on a affaire à un milieu complexe qui élargit considérablement le signal et on profite en fait de ces réverbérations pour enrichir le signal enregistré, ce qui permet avec une seule antenne, comme on le voit ici en bleu, comme dans le cas de l'acoustique, de recréer un signal aussi bref que l'impulsion émise. À nouveau, on peut avoir avantage à utiliser 8 antennes au lieu d'une seule, et dans ce cas-là, on obtient le signal rouge, et vous voyez que le rapport signal à bruit est amélioré, mais essentiellement, on obtient dans les deux situations le même signal. On peut à nouveau s'intéresser à l'aspect spatial des choses, en mesurant le signal non seulement sur l'antenne cible, mais également sur les antennes voisines, et les spécialistes auront reconnu une fonction de Bessel. La largeur caractéristique est donnée par la demi-longueur d'onde, et effectivement, la longueur d'onde dans l'espèce ici valait 12 cm, puisqu'on travaillait à 2,4 GHz. Donc ce que cette expérience vous montre est que la transmission de l'information est sécurisée, puisqu'elle est spatialement focalisée sur l'utilisateur auquel cette information est destinée. Par ailleurs, on peut utiliser ce type de technique pour multiplexer spatialement l'information. C'est-à-dire qu'on peut, dans un volume donné de l'espace, envoyer des messages distincts sur différents utilisateurs, même lorsque ceux-ci sont très proches les uns des autres, à une longueur d'onde les uns des autres. Ce qui permet d'augmenter globalement le volume d'informations qu'on envoie, enfin le débit d'informations qu'on envoie dans un volume donné. Dans le langage des communications, on dirait qu'on augmente l'efficacité spectrale du système de communication. Alors voici une expérience qui a été réalisée dans les laboratoires d'Orange sur le même principe. Je vous la montre parce qu'elle illustre bien le principe. Donc vous devinez ici un bras, et au bout du bras, il y a une antenne, qui est l'antenne donc cible, l'antenne qui va permettre de réaliser l'étape d'apprentissage. Donc imaginez qu'on ait à quelques mètres de là une autre antenne qui va enregistrer le signal produit par l'antenne source. Et, oh pardon, il va falloir que je passe le film directement comme ceci. Donc vous allez voir que l'onde étant émise par cette antenne, on est capable effectivement de focaliser là où se trouvait l'antenne, et si on déplace l'antenne, on réapprend le signal qui permet de focaliser à l'endroit où se trouve maintenant l'antenne, et on peut également apprendre à focaliser simultanément sur deux antennes qui peuvent correspondre à deux utilisateurs auxquels on souhaite envoyer de l'information. Alors en fait, nous sommes même allés plus loin sur la base d'une idée un peu folle qui a été donc mise au point par Geoffroy pendant sa thèse. Au lieu d'avoir des antennes du commerce, des antennes radiofréquence du commerce, on a utilisé des petites antennes que vous voyez ici en photo, 8 petites antennes, dont la hauteur, comme vous le voyez ici sur le schéma, est de l'ordre de 2 mm. Je vous rappelle, la longueur d'onde est de 12 cm. Donc n'importe quel spécialiste d'antenne nous aurait dit « mais vous êtes complètement fou, ça ne marchera pas » puisque on sait bien qu'une antenne doit être en accord, sa taille doit être en accord avec la longueur d'onde émise pour être efficace. Mais l'idée un peu folle a été de coiffer chacune de ces antennes d'un écheveau de fils de cuivre, d'une forêt de fils de cuivre, comme on le voit ici. Et on peut alors montrer que lorsqu'on fait émettre deux antennes adjacentes, qu'on leur fait émettre des impulsions brèves, eh bien, les ondes évanescentes, qui sont des ondes très particulières qui portent les détails plus petits que la longueur d'onde sur les antennes, sont converties en ondes propagatives. Ces ondes se propagent éventuellement très loin. Vous voyez ici à une distance de l'ordre de 10 longueurs d'onde. Les deux signaux ici, rouge et bleu, sont enregistrés donc, sur cette antenne, renversés dans le temps et renvoyés. Et vous voyez qu'on est capable de refocaliser indépendamment sur les deux antennes voisines, essentiellement deux signaux très brefs, aussi brefs que ceux qui avaient été émis. Et vous avez ici une idée de la qualité de la focalisation spatiale. Je vous remercie de bien vouloir noter ici que l'écart entre les deux antennes est maintenant de lambda sur 30. Ce qui nous avait valu à l'époque les honneurs du monde, qui avait titré « Une barrière de la physique est franchie ». Effectivement, on a montré là en fait, qu'on battait la limite de diffraction, puisqu'on montre qu'on est capable de focaliser sur une tâche dont la taille est bien plus fine que la longueur d'onde. Donc, sur cette base, à l'époque, nous avions créé une société qui s'appelait Time Reversal Communications, avec en tête l'idée de développer des miroirs à retournement temporel pour les télécommunications numériques. C'est une société qui a une vie un peu compliquée. Elle a été créée en 2008. 2008, les plus anciens se souviennent que c'était la crise des subprimes, quelques mois après la création de la société. Et donc, les sociétés de capital risque qui avaient investi un peu d'argent dans Time Reversal Communications très vite se sont retirées. Pour autant, la société a été rachetée par Bull, qui ensuite a été rachetée elle-même par Atos. Donc, on a continué à travailler avec les ingénieurs de ces deux sociétés, mais sans vraiment réussir à développer une technologie fondée sur le renversement du temps. Alors, ça n'est pas le plus beau succès du laboratoire. Je vais ensuite vous montrer qu'il y a eu des succès beaucoup plus significatifs. Je souligne quand même que la messe n'est peut-être pas tout à fait dite, puisque des géants des télécoms, et notamment une entreprise chinoise bien connue des télécommunications, s'intéressent de très près au retournement temporel dans le contexte de la 6G. Donc, vous aurez peut-être un jour des instruments qui fonctionneront sur ce principe. Alors je vais maintenant un peu plus rapidement, avant la fin de mon exposé, en espérant que je ne suis pas trop long, vous présenter trois autres applications possibles. La première dont je vais vous parler n'a pas donné lieu, en l'occurrence, à la création d'une entreprise, mais a ouvert un nouveau champ de recherche dans le domaine de la sismologie et de la géophysique. Il s'agit du retournement temporel appliqué à l'imagerie de sources sismiques. Donc c'est un travail que nous avons réalisé avec Mathias Fink et nos collègues de l'Institut de physique du globe de Paris au milieu des années 2000. Et en particulier, nous avons eu l'idée d'utiliser ce principe de focalisation par retournement temporel dans le contexte du tristement célèbre tremblement de terre de Sumatra, qui est arrivé en 2004 et qui avait notamment conduit à un tsunami gigantesque dont vous vous souvenez peut-être. Et donc le principe est le suivant. Vous savez qu'à la surface de la Terre, il y a plein de stations sismiques, et l'idée a été d'exploiter les signaux enregistrés par certaines de ces stations. On en présente ici certaines. Vous avez ici la distance à l'épicentre, le zéro est ici, en fonction du temps. Et l'idée fut donc de sélectionner certains de ces signaux, de les renverser dans le temps et de les réémettre. Alors, non pas de les réémettre dans la Terre, bien sûr, mais de les réémettre dans un modèle de Terre. Et ce faisant, il est possible de reconstruire le film que vous voyez ici. Vous voyez l'onde retourner temporellement qui vient reconverger sur la source qui avait donné naissance aux signaux sismiques. Puis ensuite, l'onde rediverge de telle sorte que vous avez en fait l'histoire du tremblement de terre. Et il est en particulier possible de remonter au mécanisme à la source. Donc vous avez ici trois images prises à trois instants différents. Vous avez ici l'instant de focalisation où on voit en fait que l'onde refocalise au nord de l'île de Sumatra. Et en fait, il s'agissait d'une faille qui s'étendait depuis le nord de l'île de Sumatra jusqu'aux îles Andaman, 1200 km au nord. Donc c'était une faille gigantesque, un tremblement de terre de magnitude 9. Et il a donc été possible de retracer l'histoire spatio-temporelle du tremblement de terre en utilisant cette méthode du retournement temporel. Alors je le disais, ceci a ouvert un nouveau champ de recherche dans le domaine de la géophysique et de la sismologie. De nombreuses équipes travaillent sur le sujet, en particulier pour la détection en temps réel de micro-séismes, mais également pour l'étude du bourdonnement de la Terre. Le bourdonnement de la Terre, c'est ce bruit sismique qui est enregistré en permanence sur les sismomètres, y compris en l'absence de tremblement de terre, et qui est lié notamment à l'interaction entre les océans et la côte. Et puis, c'est une technique qui peut être également utilisée pour la localisation des séismes glaciaires. Donc voilà pour une deuxième belle application dont je voulais vous parler brièvement. Troisième application, cette fois dans le domaine de l'imagerie médicale, mais en l'occurrence, dans une certaine mesure, il s'agit là aussi d'imagerie sismique, mais d'imagerie sismique du corps humain, puisqu'on va exploiter des ondes qui sont l'analogue de celles qui se propagent dans la Terre. Donc l'idée est la suivante. Vous reconnaissez ici à gauche l'image d'un fœtus qui a été produite grâce à un échographe conventionnel. Et l'idée d'un échographe, c'est que vous envoyez des ultrasons dans le corps humain et vous exploitez les échos réfléchis pour fabriquer une image. Et en fait, pour construire cette image, il faut focaliser autant de fois qu'il y a de lignes dans l'image. Donc vous avez ici un échographe qui est schématisé, 128 transducteurs piézoélectriques. Et donc pour fabriquer cette image, il faut focaliser en face de chacun d'entre eux, donc 128 fois, ce qui conduit à une cadence d'image de l'ordre de 50 images par seconde. Donc c'est une méthode d'imagerie qui a le bon goût d'être temps réel. La principale limite, c'est en fait le temps de propagation des ultrasons dans le milieu, donc il doit faire un aller-retour dans le milieu avant d'être enregistré donc par le même réseau, le réseau échographique utilisé pour faire l'image. Et donc l'idée de Matthias Finck à la fin des années 1990 a été de remplacer ces 128 tirs par un seul tir. Autrement dit, l'idée fut d'envoyer une onde plane en lieu et place de ces ondes focalisées et ensuite d'exploiter les échos réfléchis par les différents réflecteurs rencontrés au cours de la propagation. Tous ces échos peuvent être retournés temporellement et réémis, à nouveau pas réémis dans l'abdomen du patient, mais réémis dans un modèle du milieu. Et un bon modèle du milieu, c'est évidemment l'eau. On est essentiellement constitué d'eau. L'onde acoustique voyage, les ultrasons voyagent à une vitesse de 1500 mètres par seconde dans le corps humain. Et donc, par ce procédé de renversement du temps et de repropagation numérique, on peut ainsi remettre en phase tous les signaux qui viennent de chacun des réflecteurs et fabriquer l'image, mais avec une cadence qui est maintenant beaucoup plus grande puisqu'on gagne typiquement un facteur 100, puisque j'ai tiré une fois au lieu de tirer 128 fois. On peut donc espérer atteindre des cadences d'imagerie de l'ordre de 5000 images par seconde. Alors ceux qui connaîtraient un peu les méthodes d'échographie ou bien les méthodes de migration en sismologie se diraient qu'au fond, il s'agit certes de renversement du temps, mais on peut interpréter ça un tout petit peu différemment. Il s'agit en fait d'une méthode de formation de voie qu'on utilise également en sismologie, donc comme je le disais, dans les méthodes dites de migration, où au fond, l'idée est de remettre en phase tous les signaux qui viennent d'un point particulier. On parlera là de focalisation en réflexion plus qu'en émission, ce qui permet point par point de fabriquer l'image. Mais c'est bien l'idée du renversement du temps qui, à l'époque, avait conduit Matthias à imaginer cette nouvelle méthode pour réaliser donc des images à très haute cadence, ultra rapide, du corps humain. Alors, quel est l'intérêt ? Parce qu'au fond, un certain scepticisme prévalait au moment où ce prototype de laboratoire a été mis au point, puisque, comme je le rappelais, 50 images par seconde, c'est déjà une méthode d'imagerie de temps réel. Donc, quel est l'intérêt d'une telle cadence d'imagerie ? Bien, pour le comprendre, je rappelle ici que dans un milieu solide, il existe deux types d'ondes, ce qu'on appelle les ondes longitudinales, qui sont les ondes telles que les ultrasons dans l'eau, qui sont caractérisées par le fait que l'onde se propage dans une direction et que les déplacements élémentaires de matière se font dans la même direction que la propagation de l'onde. Et il existe également des ondes transverses, des ondes de cisaillement, où vous le voyez, les déplacements élémentaires sont perpendiculaires à la direction principale de l'onde. Or, ces vibrations, dans le corps humain, ont le bon goût de se propager à une vitesse, comme vous le voyez ici, qui est assez faible, 1 à 10 mètres par seconde, à comparer aux 1500 mètres par seconde d'ultrasons dans l'eau. Et cette vitesse dépend directement de ce qu'on appelle le module de cisaillement, qui caractérise la dureté locale des tissus. Donc si on est capable de filmer la propagation de ces vibrations, on doit être capable de remonter point par point tous les millimètres, compte tenu de la cadence d'image qui est de l'ordre de 5 à 10 000 images par seconde, à la dureté locale des tissus. Alors vous me direz, oui, mais il faut une source d'onde sismique, une source d'onde de cisaillement. Une première façon de faire est de profiter des battements cardiaques. Au gré des battements cardiaques, des ondes sismiques sont envoyées dans votre corps et vous êtes en permanence en fait, parcouru par ce genre de vibrations. Quand vous parlez, ce qui est mon cas à présent, je crée non seulement des ondes acoustiques dans l'audible en faisant vibrer mes cordes vocales, mais je crée également des vibrations qui se propagent dans mon corps. Alors je peux aussi me donner un coup de poing. Ce n'est pas très pacifique, mais vous voyez que si je me donne un coup de poing, ceux qui sont au premier rang, Jean en particulier, voient que mon abdomen se soulève ici. C'est dire qu'une onde se propage, et si tu as le temps de la voir se propager, c'est qu'elle se propage malheureusement lentement. Ça veut dire que mon abdomen est devenu un peu mou, que je ne fais pas suffisamment de sport, et que j'ai allègrement dépassé la cinquantaine. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Quoi qu'il en soit, cette onde, elle se propage non seulement à la surface, mais elle se propage également en profondeur dans les tissus. Donc on peut espérer palper en fait en profondeur les tissus, un peu comme lorsque le médecin, lorsque vous avez mal au ventre, vous palpe l'abdomen. Mais on peut aller en profondeur, comme si on avait des micro-doigts, aller palper tous les millimètres en profondeur l'abdomen du patient. Alors, il y a une façon plus pacifique de faire, c'est d'utiliser la même barrette que celle qui est utilisée pour l'imagerie, la barrette échographique. Et l'idée est de focaliser un faisceau ultrasonore pour pousser les tissus à distance. Et pour ce faire, on exploite un phénomène qui s'appelle la pression de radiation, qui a été beaucoup étudié par un certain Paul Langevin. Et donc, l'idée, c'est je pousse les tissus à distance en focalisant des ultrasons sur une durée assez longue, comme vous le voyez, 100 microsecondes. Et ensuite, dans une deuxième étape, je passe en mode d'imagerie ultra rapide. J'acquiers à très haute cadence des images du même milieu. Donc typiquement, vous le voyez ici, à 3000 Hz. Et je vais vous montrer ici, typiquement, un speckle ultrasonore. Donc autrement dit, une image des échos que l'on enregistre. Alors ici, non pas dans l'abdomen d'un patient, mais dans un morceau de gélatine, dont les propriétés sont voisines de celles du corps humain. Et vous allez voir sur le film que ça gigote. Sans que ça donne spécialement beaucoup d'informations, mais on voit effectivement que ça bouge un peu ici, là où on a poussé les tissus. Mais ce qu'on peut maintenant faire, c'est prendre deux images successives et les corréler, deux à deux. Ce qui va permettre de construire le film que vous allez voir en bas, où vous allez voir l'onde qui va se propager de part et d'autre de la zone focale, cette fameuse onde de cisaillement qui a été créée en poussant les tissus à distance. Et donc, l'intérêt va être illustré sur la diapositive suivante. Ici, vous avez à droite une image avec un échographe conventionnel d'un morceau de gélatine dans lequel on a inclus un petit objet rigide. Alors, si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir qu'effectivement, on devine la frontière de l'objet, mais il n'y a aucun contraste particulier entre le cœur de l'objet et l'extérieur. Or, ici, vous avez un objet qui est bien plus dur que le milieu environnant. Donc, l'idée, à nouveau, est de pousser les tissus à distance. C'est ce que vous allez voir ici à gauche. Vous voyez bien les ondes qui se propagent. Et vous voyez que l'onde plane qui a traversé ici, je vais essayer de le rejouer un coup à l'envers, accélère lorsqu'elle traverse la zone dure. Sa vitesse est plus importante, la dureté est plus forte. La vitesse varie comme la racine carrée de la dureté de mu, le module de cisaillement. Et de cette façon-là, on peut remonter à la dureté locale et superposer l'image d'élasticité sur l'image échographique standard et ainsi révéler la présence de la zone plus dure. Donc cette méthode est particulièrement intéressante dans le contexte du diagnostic du cancer du sein. En effet, un carcinome, donc un cancer agressif dans le sein d'une patiente, est une zone très dure, là où un kyste bénin est une zone molle et dont la dureté est du même ordre de grandeur que le milieu environnant. Et donc, dans ce contexte-là, a été créée en 2008 la société Supersonic Imagine, donc par Mathias Fink, Michael Tanter et leurs équipes. Vous voyez ici l'appareil qui a été commercialisé en 2008, l'Explorer, parce que la société est basée à Aix, en Provence. Donc il s'agit d'un échographe ultra rapide qui fournit des images typiquement à 10 000 images par seconde. Vous voyez que la société est entrée en bourse en 2014. Elle compte aujourd'hui un peu moins de 200 salariés Ici, les chiffres ne sont pas, et je m'en excuse, à jour. Plusieurs milliers d'Explorer ont été vendus. Et c'est une société qui a été rachetée par une entreprise américaine, Hologic, en 2019. Et là, c'est une des difficultés que nous avons rencontrées avec cette société et d'autres. Nous ne parvenons pas, lorsque nos sociétés connaissent le succès, à faire en sorte qu'elles restent françaises. Dans l'absolu, ce n'est pas forcément un mal, puisque, après tout, on trouve ailleurs les moyens du développement de la société, et c'est une société, vous voyez, qui commercialise un appareil qui répond véritablement à un enjeu sociétal important. Mais évidemment, ça pose la question à terme de la pérennité de l'emploi en France. C'est donc pour nous une véritable préoccupation. Et vous avez ici, sur cette diapositive, le prototype de laboratoire, donc, qui date de 1996, jusqu'à l'appareil qui a été commercialisé en 2008. Vous voyez qu'il y a grosso modo une dizaine d'années entre le concept, les premières manips du labo et l'appareil qui a été commercialisé en 2008. Ce qui finalement est assez court, mais ce qui pour un investisseur est une longue durée. Une société de capital risque a un horizon qui est plutôt de l'ordre de 5 ans. Et donc au bout de 5 ans, la société de capital risque essaie de sortir du capital, soit par introduction de la société en bourse, soit par rachat de la société par une autre entreprise. Troisième et dernière application, et j'en aurai terminé, j'ai presque terminé, je vous le promets, les interfaces tactiles. Donc vous voyez ici une table qui a une forme un peu particulière, qui a une forme de cercle tronqué. Et l'idée est de demander à quelqu'un de taper en un point de la table, ici au point A, et avec un petit capteur ici qu'on appelle un accéléromètre, on va enregistrer le signal de vibration résultant. Il ressemble beaucoup à tous les signaux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Les fréquences sont plus basses, les longueurs d'onde sont plus grandes, mais le principe est toujours un peu le même. L'idée est que si je retourne temporellement ce signal et que je le renvoie au moyen d'une source que je positionne au même endroit que le capteur, je peux espérer refocaliser une onde au point A et obliger le point A à se soulever. Ce qui n'est pas forcément extrêmement intéressant. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est demander à la même personne de taper maintenant au point B. On enregistre le signal correspondant, vous avez compris maintenant le principe, on va taper ensuite en un autre point, enregistrer le signal, et chacun de ces signaux est caractéristique de l'endroit où on a tapé. Et donc l'idée est de se constituer une banque de données, de signaux très complexes, qui sont caractéristiques chacun du point où on a tapé dans la phase d'apprentissage. Et donc dans un deuxième temps, un utilisateur autre va taper par exemple au point B, et le signal qu'il vient de produire va être comparé aux signaux qui sont dans la banque de données par une simple technique de corrélation. Et vous voyez que le maximum de ressemblance, le maximum de corrélation est bien évidemment obtenu lorsque je compare le signal qui vient d'être créé dans la plaque à celui qui avait été créé lorsque la personne avait tapé au même endroit dans la phase d'apprentissage. Et en fait, en calculant cette fonction d'intercorrélation, je ne fais rien d'autre que de simuler une expérience de renversement du temps. L'amplitude qui est ici est l'amplitude que je mesurerais au point B si j'avais réalisé une véritable expérience de renversement du temps. Et donc par ce procédé, vous pouvez rendre tactile n'importe quel objet de la vie courante. Voici un exemple d'un écran qui a été tactilisé sur ce principe. Et donc vous voyez, on peut suivre en temps réel le doigt qui se déplace et qui dessine sur cette interface. Donc la technologie à l'époque a été brevetée donc, par le CNRS, ce qui a donné lieu ensuite à la création en 2003 de la société Sensitive Object, société qui a été rachetée en 2010 par Tyco Electronics, une entreprise américaine, pour, vous le voyez, 62 millions de dollars. Donc un autre exemple de rachat d'une de nos entreprises par une entreprise étrangère, américaine ici en l'espèce. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. J'en viens à ma conclusion en essayant de vous donner quelques messages que nous tirons finalement de notre expérience, donc à l'échelle d'une vingtaine d'années maintenant. Le premier message, c'est que la France a des atouts importants dans le domaine de l'innovation. Et j'espère en particulier vous avoir convaincu que la recherche fondamentale est un terreau fertile pour l'innovation. Louis Pasteur, le grand Pasteur, ne disait-il d'ailleurs pas, il n'y a pas d'un côté la recherche fondamentale et de l'autre côté la recherche appliquée. Il y a la recherche et les applications qui en découlent, unies l'une à l'autre comme le fruit est uni à la branche de l'arbre qu'il a porté. Il n'y a pas lieu de créer de frontières de façon artificielle entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée qui se nourrissent l'une l'autre dans une logique gagnant-gagnant. Or, la recherche fondamentale reste puissante en France. Il y a donc des trésors d'innovation dans nos laboratoires qui restent malheureusement partiellement inexploités. Vous l'avez compris, la loi Allègre a marqué un changement de paradigme salutaire à cet égard puisqu'elle a donc permis à des fonctionnaires, à des chercheurs fonctionnaires, de participer à la création de start-up valorisant leurs propres travaux. À telle enseigne qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué depuis cette date et la France offre un environnement juridique et fiscal sans doute parmi les plus attractifs au monde pour l'innovation, avec notamment le statut de jeune entreprise innovante ou encore le si décrié crédit impôt recherche. Mais il y a encore des freins. Il y a des freins à l'innovation. En particulier, la recherche publique souffre d'un manque chronique de financement. Message à destination des politiques, que je m'efforce, comme beaucoup d'autres de mes collègues, de faire passer régulièrement. Vous savez que les chefs d'État européens, en 2000, il y a bien longtemps, s'étaient fait une promesse, la promesse de Lisbonne. La promesse consistait à dire « il nous faut consacrer au moins 3% du PIB aux dépenses de recherche », ce qui inclut les dépenses prises en charge par le secteur privé, pas seulement la recherche publique. Nous sommes aujourd'hui à 2,2% et nous stagnons depuis de très nombreuses années à 2,2% en France, là où les Allemands et les Suédois dépassent allègrement les 3%, et je ne parle pas des États-Unis ou de la Corée du Sud. Deuxième frein, le paysage institutionnel, malgré quelques évolutions notables, institutionnelles et administratives, demeure extrêmement complexe. Et puis, les innovateurs se heurtent à un manque criant de financement. J'ai parlé donc de la recherche publique qui souffre elle-même d'un manque de financement. Mais il est difficile, particulièrement dans la phase de croissance des entreprises qui ont été créées à partir de recherches menées dans nos laboratoires, il est difficile de trouver suffisamment de financement pour assurer la croissance, ce qu'on appelle le scale-up dans le jargon consacré. Et on se heurte non seulement à un manque de capitaux en France, mais également à la frilosité des investisseurs. Je milite pour que des grandes entreprises françaises rachètent certaines de nos pépites dans une logique d'innovation ouverte, comme celle qui a prévalu, par exemple, c'est un exemple assez emblématique à cet égard, au rapprochement entre Pfizer et BioNTech, ce qui a permis de mettre très vite sur le marché le vaccin contre le Covid. Pfizer est le grand géant de l'industrie pharmaceutique que vous connaissez. BioNTech était une start-up allemande à l'origine. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vous laisse ici avec quelques photos de miroirs à retournement temporel qui ont été développés au laboratoire tout au long de ces années. Merci beaucoup.
Des questions ou des commentaires. Je ne vois pas de... Voilà, pardon.
Attendez, je vais aller chercher...
Ah oui, l'équipement.
Alors, on me dit que je ne peux pas parler.
Je vais vous apporter le micro. Je profite de ce que je l'ai pour vous remercier de votre présentation, pour faire ma propre publicité, vous signaler que j'ai déjà écrit un édito à ce sujet dans Challenge la semaine dernière et que la semaine prochaine, vous en aurez un autre et compléter ce que vous avez dit sur le manque de financement. En l'occurrence, il y avait au Collège de France, mercredi dernier, une réunion très exactement sur ces questions-là, en la posant au niveau européen. Et à vrai dire, ceux qui étaient pointés, je dis bien au niveau européen, ce sont moins les financements par la recherche publique que les financements par la recherche privée. Autrement dit, les grandes entreprises, surtout elles, les grandes entreprises, n'atteignent pas le pourcentage qu'elles devraient avoir comme financement pour ce passage de la science la plus fondamentale aux innovations dont on dit maintenant qu'elles sont disruptives. Et je pourrais, si ça vous intéresse, même vous citer les chiffres. La comparaison entre les États-Unis et l'Union européenne, et où on voit que l'Union européenne n'est pas au niveau. Alors, qui c'est qui levait la main ?
Merci beaucoup. Peut-être si vous permettez un commentaire à cet égard. Merci beaucoup pour ce commentaire. Et effectivement, comme je l'ai moi-même souligné, au fond, les torts sont partagés, particulièrement en France, où l'effort de recherche de l'État est sans doute insuffisant, mais l'effort de recherche des entreprises l'est également. Mais cela tient en particulier aussi, s'agissant du cas français, du phénomène de désindustrialisation massive que l'on connaît depuis le début des années 2000. Je vous rappelle qu'au début des années 2000, l'industrie représentait encore à peu près en France 20% du PIB. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 10%. Et donc, de facto, si nous avons moins d'entreprises aujourd'hui dans le secteur industriel en France, nous avons aussi moins de dépenses de recherche et de développement. Donc, cette question de la désindustrialisation est clé, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'une partie de la solution tient justement à la création de start-up qui, pour certaines, ont vocation à croître et peut-être à devenir les champions de demain, pour autant qu'elles restent en France.
Oui, ben justement, j'aurais donné un exemple. Bon, mon nom, c'est Gérard Huss. Hein, je viens de l'industrie pétrolière et je suis retraité. Il y a 6 ans, j'ai un collègue qui est venu me chercher et on a cofondé une société qui travaille sur quelque part un peu dans le même domaine puisqu'on examine les transmissions des signaux sur les pipelines, gaz, pétrole, enfin tous les pipelines en acier, etc. Et pendant 6 ans, ben, on a travaillé sur nos fonds propres. Et là, au bout de 6 ans, alors heureusement, on a été aidé par une entreprise, GRT Gaz, qui a mis à disposition ses installations pour qu'on puisse faire des démonstrations. Mais il n'y avait pas d'aide financière, enfin, c'était déjà pas mal. Et là, aujourd'hui, effectivement, ils nous ont aussi fait rentrer sur le marché américain. Et voilà, donc on est dans un stade de développement. Cette année, on a pu embaucher 2 ingénieurs seniors, donc assez solides. Et j'avoue que j'aimerais bien vous rencontrer pour vous poser des questions, justement.
Avec grand plaisir.
Si c'est possible d'avoir un rendez-vous, quoi, pour un peu échanger sur tous ces sujets.
Bien sûr, pour échanger nos coordonnées après la présentation, bien sûr.
Monsieur Pierre Papon, attendez donc le micro, sinon on ne vous attend pas.
Merci. Donc Pierre Papon, un ancien de SPCI, je me réjouis de voir que les travaux de mon ancien collègue Mathias Fink ont donné lieu à beaucoup d'autres développements. Alors moi, j'ai été amené à m'intéresser aux tremblements de terre sous-marins, aux séismes sous-marins. Vous avez mentionné effectivement les applications possibles de toutes ces techniques à la détection des séismes sous-marins. Est-ce que ça a été utilisé pour des systèmes d'alerte de tsunami, hein, parce qu'aujourd'hui on essaye d'avoir des systèmes de détection avec des capteurs sur des câbles sous-marins, ce que font les Portugais, qui ont évidemment une certaine expérience des tremblements de terre, les Japonais, etc. Est-ce que donc ça a été utilisé ? J'ai pas d'idée hein, sur la façon de faire. Deuxièmement, ce que vous avez dit sur le financement de l'innovation en France, des start-up, etc., c'est un des sujets abordés longuement et cités pour la France par le rapport Draghi.
Absolument.
Par le rapport Draghi, et qui mentionne spécifiquement le cas de la France, hein, ce que vous avez dit, mais vous avez en quelque sorte, par vos activités, démenti hein, les propos de Draghi, et qui cite la France comme étant un pays où il est difficile pour des start-up qui connaissent un succès de trouver un financement pour se développer. Donc, félicitations encore pour tout ce que vous avez fait.
Mais merci beaucoup. Je reviens peut-être du coup sur le transparent précédent pour faire un peu de publicité du livre que tu as cité tout à l'heure, Jean, et je te remercie, que nous avons écrit avec Daphné Raffini, les nouveaux entrepreneurs du public. Effectivement, il y a dans ce livre, pour en faire la publicité, beaucoup de messages que l'on retrouve dans le rapport Draghi. Et je vous conseille d'ailleurs la lecture de ce rapport qui était extrêmement intéressant, qui fait un très grand nombre de pages, mais qui est lumineux. J'espère surtout que ce rapport sera suivi d'effet, car au fond, ce n'est pas le premier du genre. Il y a eu beaucoup de rapports extrêmement intéressants sur ce type de sujet et voilà, sans qu'il y ait forcément eu des suites positives. Alors pour répondre à la première question, j'avoue ne pas avoir fait une bibliographie très récente sur le sujet. S'agissant du retournement temporel, il s'agit plutôt de détecter des micro-séismes car en fait il existe d'autres techniques en réalité pour imager les sources sismiques qui font foi dans le domaine de la sismologie et qui sont aussi efficaces, voire plus efficaces. Donc je dirais que le retournement temporel permet de faire de la détection automatisée dans certains cas, et s'agissant tout particulièrement des micro-séismes. Pour ce qui est de la prévention des tsunamis, je ne pourrais pas répondre. Je n'ai pas en tête les articles les plus récents. En tout cas, à ma connaissance, le retournement temporel n'est pas utilisé à cet égard.
Merci pour l'exposé. Ma question va concerner le contrôle non destructif. Vous avez parlé un peu d'échographes appliqués au médical, mais qu'en est-il du contrôle non destructif? Et juste pour proposer mon opinion sur la différence Europe-États-Unis par rapport au financement de la recherche et tout ça, je pense qu'en Europe, on est quand même très frileux de manière générale sur l'avenir. On est une population qui vieillit malheureusement par rapport aux États-Unis, qui est plus jeune et donc qui est capable de prendre beaucoup, beaucoup plus de risques que nous. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Voilà.
J'ai retrouvé le chiffre. Selon le think tank Bruegel, les entreprises européennes... Attendez, c'est une moyenne. Hein, alors, vous savez ce que c'est que vaut une moyenne aussi. Les entreprises européennes ne contribuent en R&D que pour 1,22% du PIB de l'UE contre 2,4% aux États-Unis. Ça fait quand même une grosse différence. Donc, contrôle non destructif.
Merci. Alors, historiquement, ce fut l'une des premières applications visées. En fait, l'un des premiers miroirs à retournement temporel avait été financé par la SNECMA, qui ensuite est devenue Safran. Et donc, je n'en ai pas parlé, mais justement, on voit ici une image de l'expérience. Donc, on est dans une cuve ici remplie d'eau. Vous voyez une billette de titane. Donc, c'est ce genre de matériau qu'on utilise pour fabriquer les aubes de réacteurs d'avion. Et vous avez ici en face un miroir à retournement temporel. Et l'idée est d'illuminer le milieu d'intérêt, cette fois avec une onde plane, et d'exploiter les échos réfléchis, de les retourner temporellement et de les réémettre. Et on peut montrer que lorsqu'on itère le processus, on va finir par ne plus focaliser que sur la cible la plus réfléchissante, qui est typiquement un défaut, une fissure. Et donc on peut utiliser les miroirs à retournement temporel pour détecter les défauts de façon très efficace. Donc, merci pour la question. Ça m'a permis de dire un mot de cette application.
Bonsoir. Alors d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je voudrais revenir sur une idée que vous aviez laissée planer à l'instant de votre présentation. Lorsque le miroir à retournement temporel réémet des ondes, on remarque d'abord qu'elles convergent et ensuite qu'elles redivergent. Et vous aviez dit qu'il y avait une possibilité peut-être d'avoir une absence de divergence à la fin du processus. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ?
Effectivement. Alors, j'ai pris un risque là parce qu'en fait, je n'ai pas les transparents, je pense, correspondants, mais ce n'est pas grave, je vais l'expliquer avec les mains. L'idée, effectivement, c'est que la conservation du flux d'énergie fait que l'onde convergente est nécessairement suivie d'une onde divergente. Et il y a même un changement de signe entre les deux. Et d'ailleurs, si vous connaissez un peu la physique des ondes, ceci est une façon d'interpréter la limite de diffraction. Parce que si vous superposez une onde monochromatique convergente avec une onde monochromatique divergente et que vous mettez un signe moins entre les deux, bah vous avez en fait un sinus cardinal. Donc c'est le fameux sinus cardinal avec sa taille caractéristique, lambda sur 2, qui donne la limite de diffraction. Donc on peut réinterpréter, revisiter la limite de diffraction comme venant de la superposition de l'onde convergente et de l'onde divergente. Alors maintenant, comment tuer cette onde divergente? Eh bien l'idée, c'est de remplacer la source par un puits. Car en fait, le retourné temporel d'une source, c'est un puits qui est capable d'absorber l'énergie au fur et à mesure de la propagation. Donc Julien Doroni, au cours de sa thèse, à peu près dans les mêmes années, nous étions collègues de bureau lorsqu'il a soutenu sa thèse, il a fabriqué une sorte de puits, l'idée étant d'émettre au bon instant, au moment où l'onde commence à converger, une onde divergente qui est en opposition de phase avec l'onde qui rediverge naturellement à cause de ce phénomène donc de focalisation et de redivergence. Et ainsi, il peut annihiler l'onde divergente et il a montré que ce faisant, il était possible d'atteindre une tâche focale dont la taille limite était de l'ordre de lambda sur 14. Donc c'est une façon de simuler en fait, la présence d'un puits à la place d'un source. Autrement dit, lorsque j'écris l'équation de propagation, en toute rigueur, je dois l'écrire avec une source. Il y a bien une source quelque part qui émet l'onde. Je l'ai écrite tout à l'heure sans source. Mais lorsque la source est présente et que j'inverse le temps, il faut aussi inverser le rôle de la source et la source devient un puits.
D'autres questions? Moi, j'en ai une sur les dernières présentations que vous avez faites, sur le tactile. Alors, peut-être que je n'écoutais pas bien, mais ça a donné lieu à des dispositifs utiles quelque part. Vous avez la Sensitive Object. Ils ont fait quoi, Tyco Electronics, depuis qu'ils l'ont acheté? Surtout des... cette sorte de choses, dites-nous.
Oui, Tyco Electronics en fait, commercialise des écrans géants tactilisés par ce principe. En fait, d'ailleurs, aux Jeux Olympiques de Vancouver, Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver, les écrans de télévision géants étaient tactilisés par ce principe, sur ce principe-là. Et donc, en fait, c'est un procédé qui est particulièrement adapté pour des objets de grande taille, là où, pour un iPhone ou n'importe quel téléphone portable, il existe d'autres techniques en fait, qui permettent de tactiliser les objets. Et là encore, malheureusement, bah, la société n'est pas restée en France. Alors, par ailleurs, pour ce qui est de Supersonic Imagine, également pour ce qui est d'EcoSens, malgré tout, une partie de la société est restée basée en France. Donc, il y a encore des salariés en France. Là, pour le coup, l'entreprise est complètement partie aux États-Unis et donc il n'y en a plus trace aujourd'hui en France.
On va peut-être passer. Est-ce que il y a des questions de ceux qui sont sur une ou deux questions venant.
Oui, alors il y a quelques questions sur Internet, notamment sur une question sur comment est-ce qu'on peut assimiler les. Comment peut-on assimiler donc une forêt de tiges à un gaz de Lorentz ?
Alors oui, je suis allé un peu vite là-dessus, effectivement. Un modèle de milieu chaotique, un modèle possible pour des particules, ce sont des objets cylindriques ou des cercles dans un plan qui sont des diffuseurs pour les particules. Et on peut montrer qu'au-delà d'un certain nombre de diffusions, la trajectoire d'une particule dans un tel milieu est totalement chaotique. Autrement dit, si j'essaie d'enregistrer la position et la vitesse d'une particule qui s'est propagée à travers un tel milieu et que je définis la vitesse inverse, la petite erreur que je vais nécessairement commettre, si infime soit-elle, va exploser dans le temps et je ne parviendrai jamais à reconstituer la trajectoire inverse et à obliger la particule à revenir sur le point de départ. Donc pour une particule, il s'agit en ce sens d'un gaz de Lorentz, pour imaginer d'autres types de milieux chaotiques. Mais comme on l'a vu là, non seulement une onde n'est pas aussi sensible aux conditions initiales, mais qui plus est, on tire en fait profit de la complexité du milieu pour focaliser avec une précision ultime bien meilleure que celle qu'on obtient dans un milieu plus simple. Ce qui peut paraître paradoxal, mais ce qu'on a bien compris depuis les travaux que je vous ai présentés aujourd'hui.
On va prendre encore une question.
Alors une autre question, ça serait, on a vu l'application à des ondes sonores et électromagnétiques. Est-ce qu'il y a d'autres types d'ondes propagatives auxquelles les phénomènes peuvent être appliqués ?
Alors, on peut appliquer, a priori, le principe à tous les types d'ondes. Ce qui rend plus difficile les choses pour certains types d'ondes, c'est qu'on ne dispose pas forcément de capteurs qui sont en mesure d'enregistrer un signal en fonction du temps, et donc d'en inverser la chronologie. Cela étant, on a réalisé en 2010 une expérience du même type pour la lumière. Ce fut d'ailleurs l'un des premiers fruits en fait, du mariage entre opticiens et acousticiens qui a donné naissance à l'Institut Langevin. Donc à l'époque, c'était dans le contexte de la thèse de Sébastien Popoff, encore un autre élève, ancien élève de l'ESPCI. Et l'idée à l'époque était la suivante, ce n'était pas tout à fait une expérience de renversement du temps, mais il s'agissait d'apprendre à focaliser de la lumière à travers un échantillon de peinture, donc un milieu opaque. Et un milieu opaque en optique, c'est un milieu qui diffuse plus d'une fois la lumière avant que la lumière ne sorte du milieu. Et donc l'idée a été de placer ce milieu opaque entre, d'un côté, ce qu'on appelle un modulateur spatial de lumière qui permet de façonner la lumière un peu comme on le souhaite, et de l'autre côté, une caméra CCD. Et l'idée a été d'enregistrer ce qu'on appelle la matrice de propagation entre la caméra CCD à la sortie et donc à l'entrée, cette collection de pixels. Et une fois qu'on a enregistré la matrice, on peut l'inverser et on peut ainsi définir le front d'onde à mettre à l'entrée du milieu de façon à focaliser là où on le souhaite à la sortie du milieu. Et on peut montrer que cela s'apparente à une expérience de renversement du temps, car quand on cherche à maximiser l'énergie en un point du milieu, on fait ce qu'on appelle du filtrage adapté, et le retournement temporel peut être vu comme un filtre adapté. Alors là, j'ai parlé d'inversion de matrice ou de pseudo-inversion. On peut aussi faire ce qu'on appelle de la conjugaison de phase de la matrice. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est une autre façon de procéder. Et faire de la conjugaison de phase à une fréquence, c'est faire du retournement temporel pour un signal large bande. Donc on peut aussi, même si c'est plus compliqué, réaliser une expérience du même type pour la lumière.
Merci beaucoup, écoute. Bon, mesdames, messieurs, merci.
Merci.
Merci.